Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des chefs-d'œuvre du patrimoine français qui a inspiré à Franck Ferrand le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avez raison, la tenture de l'Apocalypse qui illumine littéralement le château d'Angers fait figure, je le disais à l'instant, de trésor national. Imaginez toute une série de tapisseries somptueuses aux couleurs éclatantes et qui ont servi de décor à des noces princières, en l'occurrence le mariage de Yolande d'Aragon que je vais vous raconter dans un instant. Alors pour nous parler de tout cela, j'ai convié Didier Le Fur qui a participé au bel ouvrage des éditions du patrimoine Apocalypse.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Lucille qui souhaite connaître l'origine de l'expression « pleurer comme une madeleine ».
Généralement, quand Didier Le Fur est là, nous avons tendance à rire plutôt qu'à pleurer.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Qu'a-t-on retenu de Yolande d'Aragon ? Qu'elle était un personnage extrêmement puissant au XVe siècle. On l'appelle la reine des quatre royaumes. Vous savez que c'est elle qui, en pleine guerre de Cent Ans, a contribué à relever une France alors effondrée. Une femme forte, d'une intelligence rare et qui savait tirer les ficelles avec talent. On la représente souvent un peu comme la femme de l'ombre, d'une certaine manière. Et vous savez quel rôle essentiel à la tête de la maison d'Anjou, elle a pu jouer dans la fameuse épopée de Jeanne d'Arc et, disons-le aussi, dans la remise en selle de son gendre, celui qui allait devenir le roi Charles VII. Tout ça face à des Anglais et à des Bourguignons qui, chaque jour, se montraient plus menaçants. À tel point que Yolande est considérée comme un personnage clé de la victoire française dans cet interminable conflit qu'on appellerait un jour la guerre de Cent Ans. Alors aujourd'hui, c'est une toute autre facette de cette femme fascinante qui va nous intéresser. Nous allons la retrouver dans sa prime jeunesse. Elle n'est alors qu'une princesse parmi d'autres, mais une princesse déjà au caractère bien affirmé et qui s'annonce à bien des égards comme une femme de pouvoir. Nous voyons déjà se dessiner dans la jeune fille ce que la femme deviendra. L'itinéraire qui va la mener vers son mariage si important pour la placer plus tard dans le camp français, cet itinéraire est plein de rebondissements, de quoi nous montrer encore que la destinée de l'Europe, à bien des reprises, s'est jouée à peu de choses. Elle est née en 1380, notre Yolande. Elle est née à Saragosse, capitale du royaume d'Aragon, n'est-ce pas ? On est au sud des Pyrénées. Cet État, à l'époque, est un acteur très important de la politique européenne et il est particulièrement bien arrimé en Méditerranée puisqu'il contrôle le nord-est de l'Espagne actuelle, le Roussillon, les Baléares, ne les oublions pas, et puis, bien sûr, la Sicile, la Sardaigne et même, au-delà, à l'est, la région d'Athènes. Le père de la petite fille, le père de Yolande, s'appelle Jean. Il est donc l'héritier de cette puissante couronne. Quant à sa mère, c'est la nièce du roi de France, Charles V. Nous sommes dans les meilleurs lignages. Yolande est élevée au sein d'une cour très raffinée. Vous l'imaginez, cette cour d'Aragon où les artistes sont si nombreux. On est dans le palais très imposant d'Aljaferia. On est à Saragosse, bien sûr. Arnaud Desroches de Chassay décrit ainsi le palais. Cet ancien palais arabe, construit 3 siècles plus tôt, aux murailles énormes, aux tours majestueuses, est une merveille architecturale et l'on vante la richesse de ses jardins, le murmure de ses fontaines, la fraîcheur de ses patios, aussi beaux, dit-on, que ceux de la lointaine Grenade. Un peu comme le palais qui la voit grandir, Yolande, très tôt, va mêler un esprit d'une certaine finance, à un tempérament solide et même un tempérament un peu rude. C'est encore Arnaud Desroches de Chassay qui parle. Petite fille, elle manifeste une personnalité attachante mais très indépendante et un entêtement affirmé. On dit d'elle, en plaisantant, qu'elle enfonce les clous avec la tête. Et c'est devenu un mot que l'on fait à son sujet. Cette petite fait honneur à son pays d'Aragon, le berceau de la mule. Yolande, princesse, vous l'avez vu, fort bien née, représentante d'une dynastie dont beaucoup recherchent l'alliance ou la bienveillance, Yolande devient donc un véritable enjeu politique. Dès sa naissance, ou quasiment dès sa naissance, les offres de mariage vont affluer dans le cabinet de son père. L'une d'elles, en 1381, vient de la maison d'Anjou. Le duc Louis Ier, donc Louis c'est le frère du roi de France, le duc d'Anjou verrait bien Yolande épouser son fils. C'est une proposition alléchante. L'enfant est héritier de titres prestigieux, duc d'Anjou bien sûr, mais aussi entre autres comte de Provence, roi de Jérusalem s'il vous plaît, et puis surtout roi de Sicile. Et quand on parle de Sicile, on parle bien des deux couronnes. Hein. C'est en l'occurrence c'est Naples qui est derrière, c'est une part essentielle de la puissance de l'Italie. Bien entendu, un tel projet de mariage n'est pas sans arrière-pensée. Les maisons d'Anjou et d'Aragon sont d'âpres concurrentes en Méditerranée. Et à un moment où le duc d'Anjou lutte pour reprendre Naples des mains d'une famille rivale, il veut assurer la paix avec l'Aragon. L'offre angevine est certainement étudiée de très près à Saragosse, on peut l'imaginer. Mais il n'empêche que, comme toujours lorsqu'il s'agit de ce genre de grandes transactions matrimoniales entre familles régnantes, ça traîne un peu, ça traîne en longueur, peut-être trop au goût de la maison d'Anjou. En 1387, la veuve de Louis Ier, Marie de Blois, renvoie une autre ambassade pour négocier le mariage de son fils Louis, devenu roi de Sicile et âgé de 10 ans. Des pourparlers ont bien lieu, mais on s'exaspère un peu côté Aragon de la forte dot qu'exigent les Angevins. Ils demandent 200 000 francs. On est à la toute fin du XIVe siècle. C'est une somme gigantesque. Et puis, au fil de ces années de discussion, la petite Yolande, disons-le, n'a pas l'air tellement enchantée par ce qu'on est en train de lui préparer. Épouser un Anjou ? Jamais, s'écrie-t-elle. Réaction normale de la part d'une enfant qui avait toute sa vie perçu ce nom d'Anjou comme celui d'une famille concurrente et dont elle avait toujours entendu dire qu'elle était une menace pour les projets de l'Aragon, nous dit Arnaud Desroches de Chassé. Malgré ses préventions, les négociations avancent. On semble même proche de conclure les fiançailles des deux enfants. On obtient le consentement de la petite Yolande et puis, une fois encore, il faut faire machine arrière. Et voilà qu'en 1395, alors que la jolie princesse a presque 15 ans maintenant, un autre parti se présente. En effet, le roi d'Angleterre, Richard II, vient de perdre sa femme. Il est donc à la recherche d'une nouvelle épouse. Et on se dit que, finalement, Yolande ferait une très belle reine d'Angleterre.
Pastourelle à l'instant sur Europe 1 par les musiciens de Provence. Et cet après-midi, vous nous faites revivre un mariage, Franck Ferrand, le mariage de Yolande d'Aragon, puisque c'est la tenture de l'Apocalypse qui est à l'honneur sur Europe 1. Alors effectivement, on en était resté.
Je vais expliquer pourquoi, c'est que cette tenture de l'Apocalypse a servi
de décor au mariage, bien sûr. Voilà. Alors on en était resté il y a quelques minutes au fait que Yolande pourrait être une candidate idéale pour devenir reine d'Angleterre.
Voilà, et les négociateurs anglais sont maintenant en terre aragonaise. On envisage un rapprochement dynastique donc avec cette Angleterre très rivale, directement rivale de la couronne de France. Vous voyez un petit peu les conséquences pour l'équilibre européen. Autant dire qu'à Paris, entre deux crises de folie, le roi Charles VI qui veille au grain ne peut pas rester sans réaction. Voilà ce que nous dit Gérard de Senneville qui a écrit de Yolande d'Aragon une très belle biographie. Le roi de France regardait d'un œil défavorable ce mariage. Il risquait d'être pris en tenaille entre deux royaumes puissants. C'est pourquoi il décida de l'empêcher en proposant à Richard II sa propre fille aînée Isabelle, alors âgée de 6 ans. Pour le roi d'Angleterre, une union avec les Valois paraît nettement plus avantageuse à long terme et Richard donc se laisse séduire par l'offre française. Autant dire qu'une fois de plus, les plans de Yolande s'effondrent. Nouvel échec donc pour la petite princesse qui affronte un terrible malheur dans la suite même de ce refus. Son père, qui était devenu roi d'Aragon sous le nom de Jean Ier, meurt d'un accident de cheval. Il était parti à la chasse et il fait une mauvaise chute. Il meurt et c'est l'oncle de Yolande maintenant qui devient roi. Il s'appelle Martin et par la même occasion, on peut penser que c'est lui qui va prendre en main l'avenir de sa nièce, évidemment. À ce moment-là, tout semble réuni pour que l'idée du mariage avec Louis d'Anjou, roi de Sicile, soit sérieusement réétudiée. Le nouveau souverain y est favorable, tout comme le roi de France, qui pousse à cette union et qui l'encourage. Quant à la mère du jeune homme, Marie de Blois, rappelez-vous, elle reste convaincue par l'idée. Donc aux yeux de tous, Yolande ferait décidément une excellente reine de Sicile. Et puis, ce qui ne gâche rien, elle passe pour posséder un physique de plus en plus avantageux. Et oui, elle a grandi, la petite Yolande. Elle est maintenant d'une beauté extraordinaire. Voilà ce que nous dit le religieux de Saint-Denis dans sa célèbre chronique. Cette princesse captivait tous les regards par sa rare beauté, par les charmes de son visage et par l'air de dignité répandu sur toute sa personne. C'était en un mot un véritable trésor de grâce. Au dire des gens sages, la nature avait pris plaisir à la former et l'avait comblée de toutes les perfections. Il ne lui manquait que d'être immortelle. Je n'essaierai point de décrire ici ses attraits. Il me suffira de dire qu'aucune femme ne méritait de lui être comparée. Ça, c'est ce qui s'appelle tresser des louanges à une jeune fille qui donc, de son côté, n'est toujours pas séduite par le projet des Angevins. C'est même le moins qu'on puisse dire. Elle entend signifier de manière éclatante que l'accord obtenu d'elle autrefois n'a plus cours. Oui, d'accord, dans un moment de faiblesse, elle a accepté d'épouser cette espèce d'Angevin. Il n'en est plus question. Voilà ce que nous dit Gérard de Senneville. Chose étonnante, la principale intéressée fit connaître par écrit son opposition à ce mariage. Dans un acte dûment enregistré, Yolande déclara qu'elle n'avait que 11 ans lorsque les délégués du roi de Sicile avaient obtenu d'elle un consentement prématuré, qu'à présent parvenue à la puberté, elle n'avait aucunement l'intention de persévérer. Et Senneville d'ajouter, il n'était pas habituel qu'une jeune princesse fasse connaître son opinion sur son propre mariage. C'était une question politique qui ne la regardait pas. Dès lors, comment est-ce qu'on peut comprendre une déclaration aussi surprenante, tellement à contre-courant de toutes les pratiques de l'époque ? On pourrait bien sûr être tenté de voir là une manœuvre diplomatique, un subterfuge, un prétexte qu'aurait trouvé le roi d'Aragon pour que l'union entre sa nièce et les Angevins ne se fasse pas. Mais dans cette hypothèse, il paraît difficile d'expliquer quelles seraient ses motivations. Est-ce qu'il s'agit toujours du problème de la dot, vous savez, cette dot énorme que demande la maison d'Anjou ? Le roi aurait-il une autre alliance en tête pour sa nièce ? Gérard de Senneville plaide pour une autre explication liée à la personnalité de Yolande. Je le cite. « Cet acte peu commun révélerait une force de caractère exceptionnelle chez une jeune fille de 15 ans. S'expliquerait-il par des raisons sentimentales ou bien par des raisons politiques ? La seconde hypothèse est la plus vraisemblable, car la jeune fille connaissait parfaitement l'histoire de la couronne d'Aragon et savait fort bien qu'une guerre de 90 ans l'avait opposée aux Angevins pour la possession de la Sicile, d'où peut-être cette antipathie. En tout cas, du côté de l'Anjou, Marie de Blois continue de s'accrocher à son projet. Au fil des années, elle a elle-même refusé d'autres fiancés possibles pour son fils. Maintenant, elle est tenace, elle y croit. Sa bru sera Yolande. En 1399, alors que son fils Louis vient de subir une lourde défaite dans une nouvelle tentative de reconquête de Naples, Marie de Blois va donc relancer l'offensive diplomatique auprès de la cour espagnole. Le roi d'Aragon, cette fois, est particulièrement sensible aux arguments des Angevins. Lui non plus, d'ailleurs, n'avait pas abandonné cette idée de mariage, hein, qui est tout à fait, je vous l'ai dit, dans l'intérêt de ses états. Ne reste plus désormais qu'à faire revenir Yolande sur sa promesse. Mais est-ce qu'on va y arriver à ce mariage ? Est-ce qu'on va la voir un jour sortir, se déployer, donner tout son lustre à la fête, la belle tapisserie de l'Apocalypse ?
Le mariage. mariage de Yolande d'Aragon et Louis d'Anjou. Voilà le thème de l'émission que vous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité Didier Le Fur. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dans la matinale d'Europe, Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Alors nous l'attendons, ce mariage entre Yolande effectivement et Louis d'Anjou. Alors c'est Marie de Blois qui va absolument marier son fils à Yolande. Est-ce qu'elle va revenir sur ses promesses ?
Eh bien, elle pourrait, parce que Yolande ne veut toujours pas épouser ce duc d'Anjou. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On n'a pas l'habitude de donner la parole comme ça à une jeune fille dans une maison princière. Vous imaginez qu'on est en 1399. Le mariage, pour l'instant, c'est l'arlésienne, hein, si je puis dire. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque c'est en Arles qu'il est bien prévu de le célébrer. Alors, en cette fin d'année 1399, Yolande a 19 ans, elle va avoir 19 ans, vous imaginez, à l'époque c'est un âge canonique. On peut penser que son oncle, le roi d'Aragon, va tout faire pour qu'elle revienne sur sa décision. C'est exactement ce qui va se passer. Finalement, la jeune princesse se laisse convaincre. On a envie de dire, ah quand même. Gérard de Senneville nous dit, elle céda finalement aux instances du roi, son oncle, mais en exigeant que celui-ci la releva solennellement de son vœu de ne jamais épouser le roi de Sicile. Comme s'il était totalement impensable dans l'esprit de cette jeune fille de revenir sur un vœu qu'elle avait formé. C'est fort ça quand même. Qui aurait pu penser, nous dit Gérard de Senneville, parmi les spectateurs de cette curieuse cérémonie, que cette jeune Espagnole obstinée allait devenir dans quelques années la tête du parti angevin et tenir à bout de bras le royaume de France ? Eh bien, moi j'ai envie de répondre à monsieur de Senneville, précisément, ce caractère trempé, cette force, cette incapacité à revenir sur sa parole sont des signes extrêmement positifs et qui peuvent déjà annoncer la grande reine qu'un jour sera Yolande. Donc cette fois-ci, ça y est, au cœur de l'automne 1400, vient le moment pour la fière Yolande de rejoindre les... Vous savez que Yolande, c'est Yolanta, ça veut dire la violente, hein, par ailleurs. Ça, c'est pas tout à fait par hasard, peut-être. Le moment est venu de rejoindre les terres de son fiancé. La voilà à Arles, où doit être célébré son mariage, accompagné de tout un cortège. La princesse dit adieu à son beau palais de Saragosse, à sa famille, à son Aragon. Cette fois, ça y est, direction Perpignan, de l'autre côté des Pyrénées, où elle est rejointe par son futur beau-frère, le prince de Tarente, qui doit l'escorter pour la fin du voyage. On peut imaginer depuis le temps qu'on évoquait dans la famille le nom de Yolande d'Aragon que le prince angevin est impatient de rencontrer sa belle-sœur. Et alors que dire de son frère qui lui va carrément l'épouser ? Gérard de Senneville raconte toujours « Lorsque le jeune roi de Sicile sut que sa future épouse était arrivée à Perpignan, il n'y tint plus et en compagnie de 8 gentilshommes, il galopa jusqu'à Montpellier. » Là, il se dissimula dans la foule des curieux qui attendaient dans la rue l'entrée du cortège princier, car dans chaque ville où elle faisait étape, Yolande était fêtée comme une reine. Ce fut en spectateur anonyme, perdu au milieu des badauds, que Louis aperçut pour la première fois la jeune fille. Il ne la vit qu'un court instant montée sur une mule au passage du cortège, mais il lui parut que sa réputation de beauté n'était pas usurpée. Tout joyeux, le jeune roi retourna au galop à Arles pour y accueillir officiellement la jeune fille. Voilà une scène qui nous en rappelle une autre très célèbre dans l'histoire de France. Et je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la première qui a inspiré la seconde, puisque vous savez qu'au moment d'épouser Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne, le tout jeune Louis XIV, de la même façon, s'était caché dans la foule pour observer sa promise. Peut-être avait-il lu dans les chroniques que le roi de Sicile en avait fait autant. Alors, le 1er décembre, Yolande est enfin en vue d'Arles. Elle s'arrête dans une maisonnette qui a été aménagée à son intention pour qu'elle puisse se préparer pour son entrée dans la ville, qui est toute une solennité, bien entendu. Et enfin, cette princesse qu'on attendait depuis si longtemps peut achever sa route et se présenter sous les murs de la ville provençale. C'est la princesse Michael de Kent qui raconte. À l'approche d'Arles, une foule très dense s'est massée au bord de la route. Yolande distingue les bruyants compliments qui s'adressent à elle, ainsi qu'aux dames et gentilshommes de sa suite. Elle est placée en tête du cortège. précédé de 4 chevaliers en armure de parade et de 2 trompettistes. Ainsi, son arrivée est annoncée et les voyageurs ou fermiers sont avertis et peuvent libérer la voie avec leurs bêtes. Yolande sent que l'excitation monte chez les autres autant qu'en elle. Et on a l'impression qu'elle y était, la princesse de Kent. Yolande entre dans la ville. Elle se dirige tout de suite vers la cathédrale Saint-Trophime, splendide édifice roman au portail tout à fait remarquable. C'est là qu'a lieu une courte cérémonie de prière. Yolande et ceux qui l'accompagnent remercient Dieu pour ses bienfaits. Et puis dans une atmosphère qui maintenant est une atmosphère de franche allégresse, la princesse, qui bientôt sera reine, sous les hurrahs, au son des cloches, va rencontrer son fiancé, Louis II d'Anjou. Elle le rencontre à l'archevêché. Marie de Blois, la future belle-mère, est là, et c'est bien le moins, quand on sait tous les efforts qu'elle a fait en faveur de ce mariage. On ne peut l'imaginer qu'heureuse, Marie de Blois, de voir enfin se concrétiser les plans qu'elle avait pu former. Le mariage a lieu le lendemain, le 2 décembre 1400, dans la cathédrale. La mariée a 20 ans, son époux en a 23, ils sont très entourés. Les plus importants seigneurs de Provence sont là, bien entendu, c'est un événement extraordinaire. Pour l'occasion, Arles est le théâtre de toutes sortes de festivités. La ville a été décorée d'une façon incroyable. Mais la plus inouïe des décorations, évidemment, le décor le plus impensable, c'est celui qu'on a tendu dans la cour de l'archevêché. Ce sont les fameuses tentures de l'Apocalypse, des tapisseries merveilleuses qui représentent des scènes tirées du livre ultime de la Bible, l'Apocalypse de Saint Jean. Dans Apocalypse, la tenture de Louis d'Anjou, ce bel ouvrage qui donc est paru sur cette œuvre, Étienne Vaquet raconte... Dans le décor qu'elle constitue en Arles, elle forme une sorte de lieu clos, hors du temps et de l'espace, avec son propre sol, des bandes herbeuses du bas de la tenture, et son ciel qui finissait par se confondre avec celui de notre monde. Nous allons bien sûr en parler maintenant de cette tenture avec vous. Bonjour Didier Le Fur.
Bonjour.
Je sais que vous connaissez bien sûr l'histoire de la tapisserie en général. On va revenir sur cette tenture en particulier. Mais avant cela, évidemment, on va voir à quoi servaient autrefois toutes ces tapisseries.
Bande originale du film Jeanne d'Arc à l'instant sur Europe 1, une musique signée et composée par Eric Serra.
D'après Karl Orff et Carmina Burana, qu'on reconnaît en dessous, si
effectivement.
Je puis dire.
Aujourd'hui, vous avez décidé de rendre hommage à ces tapisseries de l'Apocalypse qui ont été le décor du mariage de Yolande d'Aragon et de Louis d'Anjou. Franck Ferrand, et vous recevez pour nous en parler Didier Le Fur, historien, qui a participé au très beau livre Apocalypse, la tenture de Louis d'Anjou, sous la direction de Jacques Caïto et Francis Muel, édition du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, et qui est sorti au mois d'octobre.
Alors Didier Le Fur, je disais qu'il faut peut-être déjà resituer ces tapisseries dans l'usage qu'on en faisait autrefois. Elles servent de décor, nous l'avons vu, elles servent aussi à réchauffer un peu des maisons souvent froides.
C'est le principe même de l'objet textile utile au quotidien et qui aussi, par son iconographie, va impliquer une quantité d'idées, une quantité de connaissances, à la fois religieuses, mais aussi commémoratives, comme par exemple des batailles ou des vies de saints ou de personnages importants. Et aussi, dans un autre contexte, c'est-à-dire de présenter aussi la richesse du propriétaire
et bien sûr. Voire,
ou du commanditaire.
Et là, évidemment, on est dans l'extrême richesse. Hein. On est dans un des plus importants mariages du siècle, qui va ouvrir le nouveau siècle. D'ailleurs, on est à la toute fin de l'année 1400, à quelques heures du 15e siècle. Oh là, oui, bien sûr, dès qu'il s'agit de faire des maths, vous avez vu, ça devient tout de suite moins brillant. Nous sommes à quelques heures du 15e siècle, c'est bien ça. Et les invités au mariage découvrent donc cette splendeur. Je pense que lorsqu'on a vu la tapisserie de l'Apocalypse, moi je l'ai découverte, j'étais adolescent, on ne peut plus l'oublier. Hein. C'est vraiment un monument en tant que tel. Il faut aller la voir, elle est extrêmement bien exposée à l'intérieur du château d'Angers. C'est un bonheur. Et si j'en crois tous les messages qui nous sont arrivés avant l'émission et qui continuent d'affluer, nos auditeurs ont adoré cette visite. Il faut aller voir la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Combien de tapisseries? D'ailleurs, on dit la tapisserie, c'est une tenture.
C'est une tenture.
C'est une série de tapisseries.
La tenture faisant un ensemble de tapisseries. Alors, il y a 6 pièces qui sont d'égale importance. À peu près, si je ne me trompe pas, il y a 84 tableaux au total. Mm-hmm. Et aujourd'hui, et c'est ça l'exception...
C'est comme une sorte d'immense bande dessinée.
Voilà, c'est à peu près presque 100 mètres. Et si on les met bout à bout, et aujourd'hui, il n'en manque que 14 sur les 84. Donc on a un état de conservation assez exceptionnel pour un objet parfaitement exceptionnel. Et ce qu'il y a de plus exceptionnel, c'est qu'on connaît aussi l'auteur et le lissier et le commanditaire. C'est-à-dire que, alors que toute la tapisserie et toute l'histoire de la tapisserie qui commence dès le XIIIe siècle, notamment autour de Paris, autour d'Arras et de centres de production de draps, eh bien, toute cette production a pratiquement disparu. Reste cette œuvre gigantesque, excessivement précieuse déjà à l'époque et d'autant plus aujourd'hui.
Elle est en quelle matière?
Alors, c'est laine, soie. Et essentiellement, même si par la suite on va rajouter or, argent, et mais ça c'est par rapport.
Elle va être enluminée après coup, hein. Elle va être rebrochée.
On va la restaurer régulièrement. Mm-hmm. C'est un objet fragile, comme toutes les tapisseries. Et il y a généralement dans tous les hôtels princiers une personne qui est chargée justement de l'entretien des tapisseries, puisque ça fait partie d'un patrimoine à la fois important, puisque c'est relativement cher, et puis aussi. Simplement parce qu'ils se détruisent régulièrement, c'est exposé dehors, donc avec la pluie, ça pourrit, le soleil abîme aussi les fibres, faut pas oublier non plus l'humidité des maisons, les rats, enfin tout ça s'est rongé, enfin c'est de l'alimentation pour toutes ces bêtes, et par conséquent il y a toujours quelqu'un pour produire et pour restaurer régulièrement.
Que fait-elle dans la cour de l'archevêché d'Arles en cet hiver 1400, la tapisserie de l'Apocalypse? Pourquoi est-elle ici?
C'est un clin d'œil formidable, parce que comme vous l'aviez dit tout à l'heure très justement, c'est deux maisons qui se concurrencent sur un territoire, le royaume de Sicile, ou plus exactement le royaume de Naples pour être plus simple, et puis aussi pour un titre, le royaume de Jérusalem. Ces deux familles ont des ambitions expansionnistes, des ambitions aussi de croisade, ou de mener aussi des croisades. Anjou cherche à récupérer cet héritage que la papauté avait apporté déjà à la famille d'Anjou au XIIIe siècle. Et
Aragon
veut maintenir sa position. C'est une position stratégique, le royaume de Naples est riche, c'est la route aussi vers l'Orient pour le commerce, et puis aussi dans tout l'imaginaire chrétien de l'époque, c'est l'idée de ce retour du Christ sur terre, cette ultime croisade, cette destruction du mal, de la réforme de l'Église et de la conquête des territoires hors chrétiens, et de la conversion de toutes les autres, enfin de toutes les populations à autre religion, à la religion chrétienne, et avec finalement la joie ou le privilège de faire ou d'aider à faire revenir le Christ sur terre.
Alors pardon, je repose ma question pour ceux qui arriveraient en cours. Pourquoi cette tapisserie se retrouve-t-elle en Arles donc?
Alors, c'est simplement, là, on en fait un clin d'œil de pouvoir total. C'est-à-dire qu'on a ramené tout ça qui devait... Alors, comme les princes d'Anjou sont aussi princes de Provence, enfin, comtes de Provence, ça pouvait être aussi dans les parages, par rapport à d'autres cérémonies ou d'autres expressions. Ça fait 20 ans que la tapisserie, enfin, même 15 ans que la tapisserie est sûrement finie. Elle a été exposée, on l'a vu. Le frère de Louis d'Anjou, le duc de Bourgogne, veut la sienne. Jean de Berry voudra la sienne aussi. Elles sont moins grandes apparemment, mais enfin bon, ça montre que l'objet a impressionné.
Un
succès extraordinaire. Il y a eu des copies après, en plus petit format, et que par conséquent, c'est un objet de prestige immense. Et puis, cette façon que la famille d'Anjou a au mariage de Yolande d'Aragon, eh bien, d'imposer finalement sa suprématie sur cette... cet espoir plus christique et plus mystique. Voilà.
Alors cette tapisserie, on la connaît donc bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les tentures, hein, loin de là. On sait qui l'a commandée déjà.
On sait qui l'a commandée, donc Louis Ier d'Anjou. Mm-hmm. C'est un contexte dans les années 1500... Moi qui
le père défunt du marié, hein, disons les choses.
Voilà, c'est ça, qui est le frère de Charles V. Et donc, alors que Charles V, que Jean de Berry font des trésors formidables, notamment autour de manuscrits, d'objets d'orfèvrerie, des choses comme ça, Anjou va, lui, privilégier à sa manière la tapisserie pour être un peu plus originale, peut-être, ou en tout cas va aider en étant un mécène beaucoup plus important dans ce genre de production.
Alors, qui l'a commandé, on le sait, qui l'a réalisé?
Alors, la commande a été faite en deux temps, c'est-à-dire que Anjou souhaite une tapisserie de l'Apocalypse, va appeler un des peintres du roi Charles V, qui est Jean de Bruges ou Hennequin de Bruges, comme vous voulez, et cet homme va donc dessiner les cartons à partir de manuscrits existants illustrés du thème de l'Apocalypse, enfin du thème de Saint-Jean. Mm-hmm. Et c'est à partir de ces différents manuscrits, on a à peu près 3 ou 4, que Jean de Bruges va dessiner les cartons de la tapisserie et de la tenture, et va offrir à Nicolas Bataille la production. Alors Nicolas Bataille est un marchand, lissier. C'est très très compliqué de savoir si ce n'est qu'un marchand, un intermédiaire entre le commanditaire et le centre de production, ou alors propriétaire aussi du centre de production. Ça, on n'est vraiment pas très sûr.
Je pense que les ateliers étaient à lui, grosso modo, on peut l'imaginer.
Oui. Voilà. Mais il y a à peu près 10 ans de travail.
Et il va confier la réalisation à un certain Robert Poinçon.
Donc voilà, c'est ça. Et qui est certainement un chef d'atelier aussi. On suppose que les tentures ont été travaillées et produites sur des métiers, au moins 6 ou 7 métiers, avec 6 ou 7 personnes sur chaque métier, et sans doute aussi par tableau, puisque produire une seule pièce sur un seul métier, ce serait pratiquement impossible par rapport à la résistance et au poids.
Alors c'est de la tapisserie de haute lisse, on va y venir tout à l'heure.
La notion de haute lisse, basse lisse, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est certainement de par la qualité. Mais cela dit, il y a des pièces de basse lisse qui sont très, très 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 belles aussi.
Incontestablement. Donc la tapisserie a été fabriquée, on va dire, dans les années 1380.
Voilà, elle a achevé à peu près vers 1480.
Où a-t-elle été fabriquée?
Alors, sans doute là encore, dans les ateliers d'Arras, de Lille.
Mais donc là on encore... est bien dans un art des Flandres, là. Hein,
c'est un art d'Île-de-France et de Flandre. Et c'est vraiment les centres de production se sont vraiment développés à partir du début du XIVe siècle autour de ces centres-là.
Il a
c'est
fallu
avec
combien
la guerre
de, temps
de Cent Ans qui va un peu décentraliser tout ça, puisque Paris ne pouvant plus être un centre aussi important, eh bien c'est tout toute la Flandre qui va reprendre la production à partir du début du XVe siècle.
On sait combien de temps il a fallu pour la tisser, cette tenture gigantesque. Quand on l'a vu,
entre
on comprend
la commande,
ce que ça représente. C'est vraiment très grand.
Ouais. Entre la commande et la fin des dernières factures, c'est 9 ans. Donc
oui, c'est ça, hein.
Peut-être pour la production, on est 5-6 ans à peu près.
Ce qui laisse entendre qu'on travaille quasiment jour et nuit et qu'il y a énormément de monde. Hein,
c'est... Alors jour et nuit, je ne sais pas, mais il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est un travail quotidien, il n'y a pas d'heure comme aujourd'hui, les ouvriers ne sont pas payés cher puisqu'il n'y a pas de charge sociale, et que par conséquent tout le bénéfice ou toute la cherté de l'objet va dans la production, enfin dans les laines et dans les couleurs. Et dans tout
ce choix des matériaux très raffinés, etc. Bien entendu, 104 mètres de long, hein, quand même. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que il en reste 104 mètres, mais enfin, c'était un peu plus long à l'époque encore.
Hein, il y a à peu près 10% qui ont disparu.
Enfin,
il y a les
104
bordures,
mètres
il y a des
de long, 6 mètres de haut, ça fait une surface totale de 850 mètres carrés. Tout ça fabriqué en une petite dizaine d'années
avec
dans les
fleurs excessivement vives.
Hein,
parce
incroyable.
Que c'est la magie de la verre et du revers des tapisseries, puisque ce qui est exposé à la vue de tous, eh bien, c'est un peu atténué dans les couleurs, dans l'intensité.
Des fonds, d'une puissance incroyable, des bleus, des rouges,
ouais,
étonnants.
Et des verts, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que il y avait un problème pour fixer le verre, et notamment dans les textiles, et il a été magiquement conservé.
Des concerts célestes avec des anges, des archanges, des séraphins aux ailes irisées.
Et des petits diables aussi.
Et puis bien entendu, on est dans l'Apocalypse, hein, il ne faut pas l'oublier, toutes les créatures possibles et imaginables, le feu, la foudre.
Les dragons, la bête à sept têtes.
Exactement, une végétation luxuriante, des architectures incroyables, un sens du drapé, du modelé, qui pourrait faire penser aux plus beaux tableaux.
Oui.
On est vraiment une composition.
Et un gros travail de mise en scène des personnages et sur les visages, il y a vraiment un très très beau boulot. Parce que en général, on est dans des visages souvent à figure générique, tout ça. Et là, il y a une vraie volonté de personnaliser, une tentative de personnaliser les personnages pour qu'on puisse les suivre à travers tout le déroulement de l'objet.
Je regarde là les dragons, les hydres à plusieurs têtes, etc. Les chiens, tout ça fait peur, littéralement.
Il y a la volonté de faire peur, puisque
impressionné.
De toute façon,
c'est l'Apocalypse. Alors
on est dans un combat du bien et du mal.
Bah oui. Pourquoi l'Apocalypse? On y vient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La tenture de l'Apocalypse, un chef-d'œuvre unique au monde, auquel vous avez décidé de rendre hommage et de mettre à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, vous recevez Didier Le Fur, qui est historien.
Eh oui, et nous parlons donc de cette tenture qui mesure plus de 100 mètres de long sur 6 mètres de haut, 850 mètres carrés de décors fabuleux, c'est vraiment le terme qui convient, des couleurs très vives, et puis combien de feux, de fer, de morts et de détresse, aurait dit Ronsard, sur cette incroyable tapisserie de l'Apocalypse, car il s'agit de mettre en scène, car il s'agit de figurer l'un des textes les plus hallucinés de tous les temps, l'Apocalypse de Saint-Jean. Il faut peut-être en dire un mot, Didier Le Fur.
Plus populaire aussi de cette période du 13, 14, 15e siècle, puisque Saint-Jean est l'auteur de référence. Toutes les autres épîtres sont quelquefois plus...
Il faut savoir, j'étais à Patmos là, l'été dernier, je raconte ma vie aujourd'hui, mais dans la grotte de Saint-Jean,
où il a
écrit ce dernier, cet ultime livre de la Bible, hein, c'est ce qui clôt Nouveau Testament, il faut expliquer ce que c'est que cet Apocalypse. C'est une vision en fait. Hein.
Ben, c'est une vision, mais c'est une vision pleine d'espérance aussi, c'est-à-dire que cette vision de chaos, cette vision de monde et qui ne va pas, qui va mal, qui est... gangréné par tous les vices tout ce qui peut être condamné par l'Église catholique, c'est-à-dire la luxure,
le péché,
le
problème,
est aussi un message terrible d'espoir, puisque de toute façon la résurrection est au bout du chemin, et même si toutes les épreuves et que chacun devra surmonter toutes ces épreuves, eh bien il y aura toujours cet homme providentiel qui serait à l'origine de ce paradis retrouvé. Et c'est là où on revient aussi au duc d'Anjou, c'est que justement, eh bien, ce message-là, ce début du 15e siècle, est un message très très parlant dans tout l'imaginaire collectif et chez tous les gens qui ont pu assister à la fois à ce mariage, dans le message très très politique qu'ils pouvaient percevoir à travers cette exposition de la tenture, mais aussi de toute la population qui pouvait dans une façon plus simple peut-être, mais aussi espérer dans l'idée d'un bon gouvernement. Savoir et... aussi que toutes ces peintures et toutes ces, enfin, toutes ces tentures, tous ces thèmes iconographiques sont aussi dans toutes les églises à cette époque. On a perdu énormément de peintures
avec
murales.
Il y avait quand même une nouveauté pour cette tenture de l'Apocalypse, puisque avant le milieu du XIVe siècle, avant 1350, on n'a pas de tenture historiée, c'est-à-dire que c'est assez nouveau quand même, de se mettre à raconter une histoire à travers la tapisserie. C'est quand même formidable.
Ça, c'est très intéressant parce que c'est toute une évolution qui se fait à partir de la fin du, la première moitié du XIVe, sur la notion du paysage. Pour toutes les miniatures, peintures sur verre ou peintures murales, on a des individus, des animaux, mais on n'a pas encore de végétation et on n'a pas encore d'architecture, ou très très peu, ou excessivement symbolique. À partir des années 1340, avec cette peinture magnifique qui est ancienne du bon gouvernement, et puis aussi les peintures murales du palais d'Avignon, eh bien, on a une intégration de la nature et du réel et de la vérité. Comme s'il fallait, mais c'est assez intéressant aussi, puisque l'Église va autoriser aussi les premières dissections humaines, pour non pas connaître, sur un plan, d'un point de vue scientifique, mais sur l'idée de la connaissance de la beauté et de la création de Dieu. Et donc, du coup, tous ces thèmes-là de la nature, représenter la nature exactement, va être complètement intégré dans tout chez tous les artistes, et la tapisserie va reprendre complètement et va faire un genre très très puissant, justement, sur le thème de la nature. Et l'Apocalypse est un bel exemple de production intermédiaire où on voit, justement, apparaître des arbres. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, à part les animaux du texte.
Ce qui était fascinant avec cette Apocalypse, c'est qu'elle donne à voir ce qui, normalement, est très difficile à se figurer. Car quand on lit le texte de Saint Jean, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui se glorifiait et prononçait des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de faire la guerre 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et la puissance lui fut donnée sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Pff, quand on lit ça, on se dit, bon, les images ne viennent pas forcément à l'esprit. Or
et
là,
plus,
on a sous...
En latin.
Oui, en plus. Hein. Et là, on a sous les yeux exactement la figuration de ce que je suis en train de vous lire. Ça, c'est assez fort. Il y a une puissance visionnaire chez le dessinateur, chez le concepteur de la tenture, qui a quelque chose de totalement révolutionnaire pour l'époque. On peut imaginer que pour des gens qui n'étaient pas habitués à ce genre de scène, entrer dans la cour, en l'occurrence de l'archevêché d'Arles, et découvrir ce monde coloré.
Un monde total, parce que c'est des couleurs là aussi très vives, comme on l'a dit, mais c'est aussi tout un message, et il y a toute l'idée éducative dans, puisque chaque tenture, chaque tapisserie commence par un lecteur, par des chapitres, et donc du coup, il y a tout un sens qu'on peut suivre visuellement. Il y avait peut-être des explications qui pouvaient être aussi tissées, sur certaines tentures, on le sait,
oui.
Voilà. Mais ça pouvait être aussi rajouté par les décorateurs de la scène.
Alors, qu'est-elle devenue après le mariage de Yolande d'Aragon, cette tapisserie? Elle fait partie maintenant elle fait partie du patrimoine de la maison d'Anjou, hein, on est bien d'accord?
Oui, et elle va être conservée et exposée assez régulièrement jusqu'au XVe siècle, jusqu'à la fin du XVe. À partir du XVIe siècle, elle reste à Anjou, enfin à Angers, pardon. Elle est sans doute exposée lors de l'entrée de François Ier
à la cathédrale.
Cathédrale.
C'est-à-dire qu'à l'époque, la tenture en question, elle est capable de couvrir l'ensemble de la nef et du chœur.
Oui, hein,
donc ça devait faire une sorte.
Alors quelquefois, on la mettait à l'extérieur aussi, parce que justement, à l'intérieur, il y avait d'autres choses, et par rapport à un programme et une évolution ou des thèmes politiques ou religieux qu'on voulait, sur lesquels on voulait s'assister.
Arrive la Révolution, la tenture est mutilée, elle est découpée en plusieurs morceaux, et alors là, elle va servir de tout et n'importe quoi. On va s'en servir pour faire des bâches de marché, on va s'en servir pour faire des bâches de chariot, de couverture pour les chevaux, d'essuie-pieds, etc. Enfin, c'est incroyable.
Ah oui, mais on considère que ça ne vaut plus rien, et puis de toute façon, c'est une vieillerie sans aucun intérêt.
Oui, c'est une vieillerie. féerie poussiéreuse qui sert uniquement, alors vraiment à faire des, et c'est même pour couvrir les toiles, hein, souvent.
Ça sert un peu comme les tapis Kili, mais en enveloppé d'autres tapis plus précieux. Mais
voilà, exactement. C'est exactement la bonne image. Et puis, en 1848, au moment où on commence à s'intéresser au Moyen-Âge, à revenir sur les trésors d'un patrimoine qu'on aurait pu penser terminé, définitivement oublié, c'est un chanoine, le chanoine Joubert, qui repère cette tapisserie, parce qu'il en voit quand même l'éclat, la beauté. Il se dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il récupère les petits morceaux. Il les rapièce, si je puis dire, il les remet ensemble, on reconstitue l'ensemble de la tenture et on la fait restaurer. C'est à ce moment-là, hein, donc les couleurs vives que nous voyons aujourd'hui sont en partie des couleurs du Moyen-Âge, il faut le dire. Du 19e siècle,
je veux dire. C'est les couleurs du 19e, voilà, c'est ça. Et bien sûr, ça a été nettoyé, mais si on veut, et c'est là où l'intérêt des livres par rapport à l'objet exposé, c'est-à-dire qu'on peut voir l'envers.
Mais oui.
Et là, l'intensité des oranges et des rouges.
Oui,
et
incroyable. Des ocres d'or absolument sublimes.
Quelquefois, le tirage photo peut laisser croire que c'est trop vif ou mal mesuré, mais finalement, avec l'envers, ça fait un témoin formidable par rapport à tout ça.
On regarde souvent l'envers des tapisseries parce qu'elles n'ont pas été exposées aux rayons du soleil et de la lune, hein, qui sont dramatiques, néfastes pour les couleurs. Mmh. Alors, ça, c'était les tapisseries du 14e, du 15e siècle. Que va devenir la tapisserie, si je puis dire, par la suite, Didier Le Fur?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que elle va prendre pendant tout le 15e et le 16e siècle, elle va prendre une vraie personnalité par rapport à la peinture murale et surtout à la peinture sur bois qui va se développer notamment en France à partir de la fin du 15e et en Flandre un peu plus tôt. Mais, et l'abandon peu à peu de l'expression picturale dans les manuscrits. Et objet toujours de confort, objet toujours de luxe, elle va aussi proposer différents thèmes iconographiques. Et c'est essentiellement autour de la vie seigneuriale, toujours idéalisée, la chasse, les jardins, la piété. Et puis aussi, et c'est ça qui est assez amusant, parce que c'est assez rare à l'époque, même si pendant le 17e ça va se développer, c'est la vie paysanne.
Et oui.
C'est les premiers témoignages.
C'est vrai.
Alors, il y a certes.
C'est un aspect documentaire.
Exactement.
On peut dire.
Et plus que les calendriers des livres d'heures, comme ceux des traducteurs du duc de Berry, où là on voit des gens au travail, mais la tapisserie, elle, va cadrer plus sur ces personnes. Forcément, c'est des scènes heureuses. Forcément, on est dans une période de prospérité où on espère que ce soit, que le défrichage des forêts eh bien, apporte forcément d'autres terres fertiles, donc davantage de nourriture, donc davantage de joie. Il y a plein de scènes de vendanges et de fin de moisson qui sont l'expression même d'un bonheur idéal dans la vie campagnarde.
Chaque siècle, évidemment, a ses tapisseries. Il y a eu, bien entendu, l'époque très faste du XVIIe siècle, hein, avec toute la suite de l'histoire du roi. Ça, ce sont les tapisseries des Gobelins aussi, hein, qui ont été créés sous l'égide de Colbert, bien entendu, avec notamment ces rouges tellement intenses, là, très célèbres. On a au Louvre, il faut le souligner ça, on a une suite de tentures un petit peu plus anciennes qui sont celles c'est la suite des chasses de Maximilien. Ils sont d'une somptuosité absolument. Si vous avez peu de temps, par exemple, vous allez au Louvre, et parfois vous vous dites, oh oui, mais je n'ai pas le temps de visiter le musée du Louvre, évidemment, il faudrait une vie. Eh bien, allez voir une chose, et allez voir par exemple cette tapisserie des chasses de Maximilien. Vous demandez, on va vous indiquer, hein, les gardiens sont là pour ça, ils vous indiqueront le chemin, et vous aurez en un quart d'heure ou 20 minutes vu une des plus belles choses qu'on puisse voir à Paris, tout simplement.
Oh,
et puis, ces tapisseries, il faudrait aller voir celle de la Dame à la Licorne, hein, évidemment.
Oui, ou de la Résurrection,
encore
aussi
plus ancien.
Au musée du Moyen-Âge.
Au musée de Cluny.
Saint-Étienne.
Exactement. Bon, il y en a partout de ces tapisseries fabuleuses. Au XVIIIe siècle, l'art de la tapisserie est un petit peu sur le déclin, quoique on a quand même des choses merveilleuses.
Parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a tout un travail justement sur l'imaginaire. C'est toujours cette notion du bien et du mal.
On a de très belles dans la galerie des Gobelins, justement.
Oui, et puis il y a tout un travail sur justement le monde oriental et avec justement la campagne.
Alors, au XXe siècle, il y a eu l'inénarrable Jean Lurçat, qui a littéralement couvert les palais nationaux grâce aux commandes publiques de ces tapisseries un peu hallucinées, un peu particulières, je ne sais pas comment les définir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, les lissiers sont très actifs. On fabrique encore beaucoup de tapisseries contemporaines.
Alors, on en fabrique beaucoup, mais c'est souvent à partir de tableaux déjà réalisés. C'est-à-dire que toute l'imaginaire qui existait au XIVe, XVe, voire au XVIe, avec des cartons particuliers ou des adaptations de peinture pour faire des choses un peu plus différentes, là, ça s'est un peu perdu. Et même si les Gobelins produisent toujours, notamment des reproductions de tableaux, qu'il y a des mécènes qui commandent aussi certaines choses,
oui,
l'art de la lisse
a commencé par l'État, hein, d'ailleurs.
Voilà. Et l'art de la lisse a un peu décliné quand même.
Oui, ça, bien entendu. Alors, si vous êtes intéressé par ces tapisseries en général, sachez que l'été prochain ouvrira à Aubusson, c'est bien le moins si je puis dire, la Cité internationale de la tapisserie. 350 ans à peu près après l'établissement de la manufacture royale d'Aubusson par Colbert. Alors ça, c'est encore un autre type de tapisserie dont on n'a pas trop parlé.
Mais alors souvent, il y a eu une mauvaise image sur la tapisserie d'Aubusson parce qu'on a considéré que comme les belles choses, ça se faisait dans les villes et à la campagne, puisque c'était la Creuse, forcément c'était quelque chose de plus médiocre ou de moins bien fait. C'est complètement faux. Et puis c'est surtout le fait qu'il y a différents types de production. Production luxueuse et production plus populaire, enfin entre guillemets populaire, et en tout cas moins chère. Et et on en a gardé quelques-unes.
Et Maxime nous dit, il faut absolument visiter Angers. En une pierre deux coups, on visite un château impressionnant, une œuvre d'art sublime, témoin unique d'une époque et du raffinement qu'avaient nos ancêtres au Moyen-Âge. Je suis bien d'accord. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Angers ou si vous voulez conserver un beau souvenir de votre visite, n'hésitez pas à fondre sur l'ouvrage Apocalypse, la tenture de Louis d'Anjou, sous la direction de Jacques Caïto et Francis Muel. C'est aux éditions du Patrimoine, coédition du Centre des Monuments Nationaux, et vous avez donc participé à ce très bel ouvrage, Didier Le Fur. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, je renvoie aussi, par ailleurs, nos auditeurs à votre désormais célèbre biographie de François Ier.
La balade de la Reine d'Avril par les musiciens de Provence sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, pour vous, Franck Ferrand, une question de Lucille sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Pourriez-vous revenir sur l'origine de l'expression « pleurer comme une madeleine » ?
Eh oui, alors nous allons y venir. C'est une question qui n'a rien à voir avec la Madeleine de Proust, hein, je précise. Madeleine, quand on dit « pleurer comme une madeleine », c'est avec un M majuscule, bien entendu. Il s'agit de la fameuse Marie-Madeleine ou Marie la Magdaléenne, une des disciples de Jésus, considérée par les évangiles comme le premier témoin de la résurrection. Alors, lorsqu'elle a pris cette Madeleine, la venue du prophète Jésus dans le village de Magdala, elle se présente à lui, elle se met à genoux en pleurant, elle lui lave les pieds tout en lui confessant ses péchés et devant l'abondance de ses larmes, devant sa volonté de se repentir, Jésus va lui pardonner et lui remettre ses péchés. Elle pleura à nouveau en découvrant le tombeau de Jésus ouvert et vide, et c'est à elle que le Christ ressuscité apparut en premier et lui demanda de sécher ses larmes. Donc vous comprenez pourquoi on dit pleurer comme une madeleine. Ce sont ces pleurs répétés, bien entendu, qui ont donné naissance à l'expression pleurer comme une madeleine, qui veut dire pleurer abondamment ou souvent. On en trouve la première trace attestée dans les années 1830, notamment dans les écrits de Balzac, dans la Comédie humaine. Balzac dit plusieurs fois que ce personnage pleure comme des madeleines. Cependant, depuis le XIIIe siècle, il existait déjà l'expression « faire la madeleine ». Mais attention, faire la madeleine, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait pleurer. Faire la madeleine, c'est affecter le repentir. Vous voyez, c'est une notion de duplicité qui vient se mêler à l'affaire.